Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a
C'est Chloé Gabrielli, la conteuse, comme on est bien sur Fréquence 7 pour se raconter des histoires. Et oui, c'est le moment que vous attendez tant. Alors, posons-nous la question d'abord, pourquoi faut-il raconter des histoires? Pourquoi est-ce que depuis, je sais pas, 10, 12, 13, 14 ans, sur Fréquence 7, je propose de vous raconter des histoires? Et pourquoi depuis tout ce temps-là, vous m'écoutez, hein? Eh bien, je vais vous donner la réponse de Mimi Barthélémy, qui est une grande conteuse haïtienne. Voilà ce qu'elle dit quand on lui pose la question « Pourquoi faut-il raconter des histoires ?» Il était une fois un roi et une reine qui désespéraient d'avoir un enfant. Dans leur grand palais, ils se morfondaient. Qui hériterait de la couronne? Qui leur succéderait? Leur cœur ne cherchait qu'à aimer, leurs mains ne cherchaient qu'à caresser. Toute la sainte journée, ils brûlaient des cierges, des chandelles, des bougies, des baleines. Toute la sainte journée, ils invoquaient la compassion des cieux, ils priaient Dieu, ils voulaient un enfant. Le roi avait tendance à se décourager et souvent il chuchotait « Oublions tout ». Mais la reine renchérissait « Oh patience, la patience, c'est le secret de la victoire ». Et elle avait raison. Voilà qu'à un âge très avancé, elle met au monde un enfant. Au chevet de l'enfant, on met des doudous, des nounous, des toutous, des joujoux, des roudoudous et une horde d'esclaves. Et lorsque l'enfant grandit, on trace dans les jardins du palais de grandes allées pour qu'il puisse marcher, pour qu'il puisse courir. On plante des fleurs pour qu'il puisse les cueillir, des arbres à papillons pour qu'il puisse chasser le papillon. On découvre de nouvelles espèces de roses sans épines. On extermine les mouches, les moustiques, les tiques. Et on élève de hautes murailles tout autour du palais pour que personne ne puisse jalouser l'enfant, pour que personne ne puisse le voir et lui lancer le mauvais œil. Et l'enfant, le petit prince, grandit, tout seul, entre ses vieux parents. Tout seul, au milieu de ses doudous, ses nounous, ses toutous, ses joujoux, ses nounours, ses roudoudous, et il erre tout seul dans sa grande cage dorée, tout seul. Et voilà qu'un jour, il se retrouve au fond de son jardin, devant une grande porte ouverte. Alors il la franchit, sans hésiter, et il se met à rire, à sauter, à courir, à jouir de sa liberté, à découvrir de nouvelles fragrances, de nouvelles odeurs, de nouvelles senteurs, de nouvelles couleurs. Et il s'extasiait justement devant la couleur vert d'eau de l'eau de la rivière, et il pensait remonter le cours de la rivière lorsqu'il voit de l'autre côté de la rive un petit bonhomme cornu, pas très recommandable, qui se tord de rire en le pointant du doigt. Il crie « Mon repas est à portée de mes doigts !» Et juste à ce moment-là, un bel oiseau noir immense déploie ses ailes bleues, plonge sur l'enfant et l'emporte dans les airs. « Donne-le-moi, bel oiseau, donne-le-moi cet enfant, je te donnerai en échange un baril rempli de maïs, donne-le-moi » Et l'enfant chuchotait à l'oiseau au regard perçant. « Sauve-moi, bel oiseau, sauve-moi !» Je te donnerai un baril rempli de doublons d'or. » Et l'enfant et l'oiseau disparaissent. Je vous laisse imaginer, mesdames et messieurs, ce qui se passait au palais du roi. La reine en était à sa énième crise de nerfs. Le roi avait fait mettre les doudous, les nounous, les toutous, les joujoux, les nounours et les roudoudous au fer. Et les esclaves également. Mais l'enfant était introuvable. Soudain, au loin, un point. Un point noir. L'oiseau noir. L'oiseau se pose sur une des vérandas du palais du roi. déploie ses belles ailes bleues, et l'enfant tant attendu apparaît. Que donnerais-je à l'oiseau pour le remercier, dit la reine mère. Je lui ai promis un baril rempli de doublons d'or, dit l'enfant. Qu'on lui donne 2 ou 3 ou 10 barils remplis d'or. Mais l'oiseau ne veut ni d'un, ni de 2, ni encore moins de 10 barils d'or. Ce qu'il souhaite plus que tout, c'est une petite chambre au palais où il pourrait se reposer la nuit après avoir volé le jour. On lui donne une grande chambre avec un beau balcon fleuri. Hélas, le soir même, un jeune garde inexpérimenté, prenant l'oiseau pour un aigle, un vautour peut-être, le vise et le tue. L'enfant s'est longuement penché sur l'oiseau au regard désormais clos. Lorsqu'il s'est relevé, il a libéré les doudous, les nounous, les toutous, les esclaves. Il a rangé ses nounours, ses roudoudous. Il a serré bien fort ses vieux parents contre son cœur et il a franchi la porte du fond du jardin, emportant pour seul bagage le message de l'oiseau sur le prix à payer pour garder sa liberté. Voici. Voilà. En vérité, si je raconte moi des histoires, c'est pour que vous, comme nous tous, comme mes compatriotes haïtiens et comme moi-même, nous puissions nous rappeler le prix à payer pour garder notre liberté. Mimi Barthélémy ajoute : un chasseur en quête de gibier s'en va à la forêt. Il marche, il cherche, il marche, il cherche. Il tombe sur un oiseau. Une belle merveille d'oiseau, un arc-en-ciel d'oiseau. Avec sa flèche, il s'apprête à le tuer. Mais l'oiseau l'implore de ne pas le tuer. Le chasseur le vise et le tue, et rentre à la maison, pressé de le plumer, pressé de le vider. L'oiseau, à nouveau, l'implore de ne pas le vider, de ne pas le plumer. Mais le chasseur le vide, le plume, le découpe en morceaux, le sale, le citronne, le pimente, et s'apprête à le boucaner sous la braise. Mais l'oiseau l'implore de ne pas le faire. Le chasseur le boucane et le mange et s'en va le digérer sur la planche de son lit. Il aurait avalé des pierres volcaniques qu'il se serait senti moins lourd, moins incendié, moins brûlé du dedans. Jusqu'à ce que soudain, son ventre explose sous les coups de bec de l'oiseau qui, depuis son ventre, jaillit tout entier de ses entrailles en criant un jour, jour de chance du chasseur, l'autre jour, jour de chance du gibier. Alors Mimi Barthélémy ajoute : je raconte aussi pour garder espoir.
Somewhere over the rainbow.
C'est pour cela aussi qu'il faut raconter des histoires, pour garder sa liberté et pour garder espoir. J'en suis bien convaincue. Voilà donc un conte, rien que pour vous, mes chers auditeurs, chères auditrices de Fréquence 7. Macam était un jeune homme au cœur bon, à l'esprit rêveur, à la beauté simple. Il souffrait pourtant d'une blessure secrète, d'un désir douloureux, qui lui paraissait inguérissable, et qui donnait à son visage, quand il cheminait dans ses songes, une sorte de majesté mélancolique. Macam voulait sans cesse savoir. Savoir quoi, il n'aurait pas su le dire. Son désir de savoir était comme une soif sans nom, une soif qui n'a pas de bouche, mais qui a un cœur. Il lui semblait que sa poitrine en était perpétuellement creusée et asséchée. Il en tombait parfois dans un désespoir inexprimable. Macam fréquentait assidûment la mosquée, mais dans ses prières, ce n'était pas le savoir qu'il désirait. Il les disait pourtant tous les soirs, il lisait le Coran, il cherchait la paix dans la sagesse. Il se décourageait souvent. En vérité, plus que les paroles sacrées, il goûtait le silence qu'il appelait à voix basse, le bruit du rien, à l'heure où la lune s'allume dans le ciel. La lune, il l'aimait d'amitié forte et fidèle. Elle lui avait appris à dépouiller la vie de ses détails inutiles. Quand elle apparaissait, Il la contemplait comme une mère parfaite. Sa seule présence simplifiait l'aridité et les obstacles du monde. Ne restait alentour que la pointe de la mosquée, l'ombre noire de la hutte, la courbe pure du chemin, rien d'autre que l'essentiel. Et cela plaisait infiniment à Makam. Or, une nuit de chaleur lourde, comme il revenait le long du fleuve des eaux sombres et silencieuses de l'école coranique où il avait longtemps médité, l'envie le prit de dormir dans cette tranquillité où son âme baignait. À la lisière du village, il se coucha donc sous un baobab, mit son Coran sous sa nuque, croisa ses doigts sur son ventre et écouta les menus bruits du rien alentour. Le ciel était magnifique. Les étoiles brillaient comme d'innombrables espérances dans les ténèbres. Le cœur de Makam en fut empli d'une telle douceur que sa gorge se noua. « Savoir la vérité du monde, soupira-t-il, savoir !» Ce mot lui parut plus torturant et beau qu'il ne l'avait jamais été jusqu'à cette nuit délicieuse. Il regarda la lune. Alors, il sentit un rayon, pâle et droit comme une lance, entrer en lui par la secrète blessure de son esprit. Aussitôt, le long de ce rayon fragile, il se mit à monter vers la lumière. Cela lui parut facile. Il était soudain d'une légèreté merveilleuse. Une avidité jubilante l'envahit. La pesanteur du monde, les chagrins de la terre lui parurent bientôt comme de vieux vêtements délaissés. Il se dit qu'il allait enfin atteindre cette science qu'il ne pourrait peut-être jamais apprendre à personne, mais qui l'apaiserait pour toujours. Il bondit plus haut. Les étoiles disparurent alentour de la lune ronde. Il se retint de respirer pour ne point rompre le fil qui le tenait à l'infini céleste. Il s'éleva encore, parvint au seuil d'un vide immense et lumineux. C'est alors qu'il entendit un cri d'enfant lointain, menu pitoyable. Un bref instant, il écouta. Quelque chose en lui remua. Un chagrin oublié, peut-être. Un lambeau de peine terrestre emporté dans le ciel. Et Makam se sentit descendre, imperceptiblement. Le cri se fit gémissant dans la nuit. Il s'émut, s'inquiéta. « Pourquoi ne donne-t-on pas d'amour à cet enfant ?» se dit-il. Et il eut tout à coup envie de pleurer. Il se tourna sur le côté. Il était à nouveau dans son corps, sous l'arbre. Et dans ce corps, les yeux mi-clos à la lumière des étoiles revenues, il vit la cour d'une case. Et dans cette cour, un nourrisson couché qui sanglotait, les bras tendus à une mère absente. Makam se dressa sur le coude, le cœur battant, la bouche ouverte. Il n'y avait pas d'habitation à cet endroit du village. Il murmura « Qui est cet enfant ?»« C'est toi-même, » répondit une voix fluette au-dessus de sa tête. Il leva le front, tendit le cou, et vit un oiseau noir perché sur une branche basse du baobab. Il lui demanda « Mais si c'est moi, pourquoi ai-je crié ?»« Parce que la seule puissance de ton esprit ne pouvait suffire à atteindre la vraie connaissance, » lui dit l'oiseau. « Il y fallait aussi ton cœur, ta chair, tes souffrances, tes joies. L'enfant qui vit en toi t'a sauvé, Makam. S'il ne t'avait pas rappelé, tu serais entré dans l'éternité sans espérance, la pire mort, celle où rien ne germe. Brûle-toi à tous les feux, autant ceux du soleil que ceux de la douleur et de l'amour. C'est ainsi que l'on entre dans le vrai savoir. » L'oiseau s'envola. Makam se leva et s'enfuit lentement par les ruelles de son village. De ci, de là, devant des portes obscures, brillaient des lumières. Près du puits, l'âne gris dormait, environné d'insectes. Sous l'arbre de la place, une chèvre livrait à son flanc ses petits. Au loin, un chien hurlait à la lune. Et pour la première fois, elle parut à Makam comme une sœur exilée, et il se sentit pris de pitié pour elle, elle qui ne connaîtrait jamais le goût du lait et de la chaleur d'un lit auprès d'un être aimé.
What a wonderful world.
Puisse le roi vivre toujours ! Telles étaient les premières paroles que tout homme du pays Haoussa devait dire sans faute, selon la coutume sacrée, dès qu'il paraissait en présence de son souverain. Or, dans l'ombre de l'arbre, au vaste feuillage, où ce maître du royaume recevait tous les matins son peuple, vint un jour un homme de haute taille et d'allure tranquille, qui osa le saluer par ces mots. « Il n'est pas de roi comme Dieu !» Aussitôt s'éleva une rumeur scandalisée parmi les courtisans aux robes lentement remuées par la brise. Le roi, lui, ne daigna pas s'irriter. Il sourit, leva la main pour imposer le silence et demanda à l'audacieux de répéter sa salutation, en tendant l'oreille, en grimaçant du nez, comme s'il avait mal entendu. À nouveau, l'homme dit « Il n'est pas de roi comme Dieu !» Il était impassible et droit. Alors, le roi se sentit cruellement blessé dans son orgueil, mais il n'en laissa rien paraître. Il répondit « Homme, ton insolence est celle d'un fou ou d'un héros. Qui es-tu ? Je suis un paysan de ta cité. Je cultive mon champ à la lisière de la ville, et je n'ai d'autre ambition que de nourrir convenablement ma femme et mes enfants. » Le temps qu'il me sera donné de vivre. » Le roi répondit « Tu mérites ma considération et ma confiance. » Il ôta de son doigt un anneau d'or ciselé, le lui tendit et dit encore « Je te confie ce signe de ma royauté que mes ennemis convoitent. Garde-le précieusement, car s'il t'arrivait de le perdre, tu devrais le payer de ta vie. Que soit ainsi honoré celui qui n'a d'autre roi que Dieu. » L'homme salua et s'en revint chez lui, l'anneau dans son poing serré. Une semaine plus tard, le roi le fit appeler. À peine lui avait-on fait place devant son trône qu'il dit « J'ai une mission à te confier. J'ai besoin de maçons et d'artisans habiles pour bâtir le nouveau rempart de ma cité. Visite tous les villages du pays, jusqu'au plus lointain, et ramène-moi les hommes qu'il me faut. » Celui que maintenant on appelait parmi le peuple des ruelles « Pas de roi comme Dieu » revint à l'instant chez lui, enferma dans une corne de bélier l'anneau royal qui lui avait été confié et dit à son épouse « Je dois partir en voyage. Pendant mon absence, prends soin de cet objet. Qu'il te soit aussi cher que ma vie même. » Il l'embrassa, serra ses enfants contre sa poitrine, puis monta sur son âne et s'en alla. À peine était-il sorti de la ville, que le roi envoya en secret un messager chez la femme de Pas de roi comme Dieu. Cet homme au regard luisant offrit à l'épouse craintive 1000 coquillages contre la corne de bélier où était l'anneau. Les mains frémissantes et le cœur battant, elle le repoussa. Alors il ouvrit devant elle 3 coffres emplis de vêtements magnifiquement teints et tissés de fils d'or. Elle les porta à son visage, respira leur parfum, s'en vêtit, contempla leur splendeur dans un miroir de cuivre, ferma les yeux et désigna la poutre de la maison. Dans un creux de cette poutre était cachée la corne. Le messager la rapporta en toute hâte à son maître. Dès que le roi eut l'anneau dans sa main, il éclata de rire et grogna méchamment. « Que l'on me forge une nouvelle bague et que l'on aille jeter celle-ci dans le lac le plus profond du pays !» 2 serviteurs s'enfuirent aussitôt en courant et firent ce qu'il avait ordonné. Sur le chemin du retour, Pas de roi comme Dieu et sa troupe de maçons firent halte un soir dans un village de pêcheurs, où leur furent offerts tant de fruits et de boissons fortes, tant de chants et de rires qu'ils décidèrent de séjourner quelques jours parmi ces gens de bien, avant d'affronter la rude savane qui les séparait de la cité royale. Le lendemain, ils accompagnèrent donc les hommes à la pêche, où ils revinrent au crépuscule, les filets lourds et ruisselants. Quand on eut aligné les poissons sur un grand lit de feuilles vertes au milieu de la place, tout le monde vit qu'un poisson remuait encore, Il était de taille imposante et scintillait comme les eaux du lac sous les feux du soleil couchant. Un enfant l'empoigna, le brandit, prit le couteau de son père, s'accroupit, fendit le ventre du bel animal, comme il le voyait faire aux autres. C'est alors que parmi les entrailles apparut l'anneau brillant du roi. À la pointe du couteau, l'enfant étonné le tendit à Pas de roi comme Dieu, qui se trouvait auprès de lui. Pas de roi comme Dieu l'examina, et les yeux ronds, la bouche ouverte, reconnut la bague que son roi lui avait confiée. Dans ce lac même où elle avait été jetée, un poisson l'avait avalée. Ce poisson était celui que l'enfant tenait maintenant dans sa main. Quelques jours plus tard, les voyageurs parvinrent à la cité royale. Pas de roi comme Dieu revenu chez lui embrassa son épouse et lui demanda la corne de bélier. Elle lui répondit qu'un rat l'avait rongée et avait sans doute avalé l'anneau. Il fronça les sourcils, les poings sur les hanches. À peine s'était-elle enfuie par la ruelle, craignant la colère de son époux, que survinrent quatre guerriers de la garde du palais. Ils conduisirent leur homme devant le monarque, qu'ils saluèrent d'une voix forte, à peine entrée dans la salle du trône. « Puisse le roi vivre toujours !» Le roi, d'un geste impatient, les fit taire. Il fit signe de s'avancer à celui qui avait blessé son orgueil et lui demanda son anneau d'or. L'autre enfonça la main dans sa vaste poche et lui tendit en disant « Vraiment, il n'y a pas de roi comme Dieu !» Le roi poussa un grognement éberlué, soupira et répondit « Homme, tu as mille fois raison. Il n'est pas de roi comme Dieu. » À cet instant, il fit partager son royaume en deux parts égales et en offrit une à Pas de roi comme Dieu, dont le nom était devenu si cher au cœur des Haoussa qu'ils se plaisent aujourd'hui encore à l'inscrire au front de leur camion, de leur autobus ou de leur barque de pêche, afin que soit dite à tout vent cette histoire déraisonnable et vraie, sans laquelle la vie ne serait pas digne de confiance. C'est déjà l'heure de se quitter, mais c'est pas grave, on se retrouve tous les mercredis, tous les samedis à 16h et d'ici nos retrouvailles, racontez-vous des histoires.